Et bienvenue à toutes et tous à cette rencontre franco-allemande. Vous avez nos stars au milieu de la table. Donc rencontre aujourd'hui centrée sur les fictions et imaginaires du complot en Afrique subsaharienne, comme cette belle affiche accordée à mon pull l'indique. Alors le point de départ de cette rencontre porte sur un sujet spécialisé, il faut le dire, c'est une frustration de Sylvain et moi-même aux extrémités de cette table. Alors, d'une part, premier état de fait, l'Afrique subsaharienne n'échappe pas aux figurations du complot qui circulent dans la plupart des sociétés du monde. Pourtant, second état de fait, l'histoire, la fréquence et l'actualité spécifique de ces figurations et de ces fictions du complot, on va en parler, sont moins abordées par la recherche internationale que pour d'autres régions de la planète. Et on l'avait par exemple constaté lors du colloque interdisciplinaire qu'on avait co-organisé ici même en juin dernier, donc colloque qui portait lui aussi sur les fictions et imaginaires du complot, et pour laquelle il avait été vraiment compliqué de faire une place à l'Afrique subsaharienne, pour des raisons logistiques en particulier, mais peut-être pas seulement, on pourra en reparler. Et donc la présente rencontre est donc une parfaite occasion de tenter de rattraper un peu cela en soulignant l'intérêt d'une prise en compte, en dialogue, des imaginaires subsahariens du complot dont nous envisagerons différentes déclinaisons, des plus littéraires aux plus politiques. Et donc un très très grand merci renouvelé à la maison André Scheiner, en particulier Elsa Vinet qui se trouve au fond de la salle, de nous accueillir à ce titre dans ce très beau lieu. Merci aussi à Ella Raberto, à ma droite, d'être parmi nous et que je vais donc présenter brièvement. Donc, Ella est chargée de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Les Afriques dans le Monde, localisé à Bordeaux. Et donc, ses travaux portent sur les relations entre littérature et engagement politique au moment des indépendances en Afrique de l'Ouest. Elle a notamment publié Senghor, donc aux Presses universitaires de France en 2023. Biographie intellectuelle de Senghor, Un couple panafricain chez Robocric en 2025, Conakry, une utopie panafricaine chez CNRS Éditions en 2025 également, en fait il y a quelques mois, dont il sera plus spécifiquement question aujourd'hui. Et Ella chronique par ailleurs régulièrement les littératures francophones contemporaines pour divers médias. Donc on est vraiment ravis de l'avoir parmi nous.
Et notre deuxième invité, que je présente tout de suite, Joschka Philips, est titulaire de la chaire de sociologie de l'insécurité et de l'incertitude. Alors moi, juste le terme de la chaire, je le trouve extrêmement intéressant. Donc sociologie de l'insécurité et de l'incertitude à l'université de Bayreuth en Allemagne. Il a travaillé sur les relations entre jeunesse urbaine et manifestations politiques et sur les politiques de l'inconnu, qui est d'ailleurs le titre de l'un de ses futurs ouvrages à paraître, coédité avec Aurélien Gillier et Nestor Zante. Je ne sais pas si je prononce bien leur nom. Et donc notamment à Conakry, en Guinée. Il est l'auteur aussi de nombreux articles portant sur les formes et enjeux du complotisme en contexte post-colonial. Et pour dire rapidement deux mots sur nous-mêmes, les organisateurs de ce moment, je m'appelle moi Sylvain Delouvet, je suis en psychologie sociale, chercheur en psychologie sociale. Je travaille sur les croyances collectives, en particulier donc, vous l'aurez compris, sur les théories du complot et sur le complotisme. Pas du tout spécialiste de cette ère géographique et justement très heureux de pouvoir échanger sur des thématiques qui nous sont communes.
Donc à mon tour aussi de me présenter très brièvement, donc Chloé Chaudet, donc moi je suis en littérature générale et comparée, donc de manière très simplifiée, j'essaye de mettre en relation les langues et les imaginaires, à partir notamment du monde atlantique, donc à partir des relations entre les différents continents bordant cet océan. Et alors je suis bien évidemment bien moins spécialiste de l'Afrique de l'Ouest que nos deux invités, mais j'ai pu constater à plusieurs reprises que les mises en dialogue des littératures imaginaires, discours d'Afrique subsaharienne pouvaient nous aider à mieux comprendre le monde atlantique dans son ensemble. Et c'est à ce titre, dans cette perspective dialogique, que je suis ravie de pouvoir mener la présente rencontre menée avec Sylvain. Et donc, alors peut-être pour commencer, vous lancer un petit peu, puis vous laisser parler aussi, une question transversale. Peut-être pourriez-vous d'abord nous dire tous deux dans quel contexte ou à l'occasion de quel terrain vous avez été confrontés au terme complot. Donc, bah, allez, Elara, honneur aux dames.
Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous les deux et merci pour l'accueil. Alors, le terme complot, moi, j'ai travaillé donc sur le régime de Sékou Touré, donc de 1958 à 1984 en Guinée, un régime très spécifique, à la fois phare du panafricanisme, à la tête d'une politique culturelle extrêmement ambitieuse, hein, je vais y revenir peut-être tout à l'heure, et en même temps avec un virage autoritaire assez net dès 1961, avec le premier complot dit des enseignants. Et à partir de 1961, le terme même va intégrer la rhétorique d'État. Donc c'est à la base un terme qu'on retrouve dans le discours présidentiel, qui va être relayé ensuite dans tous les organes de la Voix de la Révolution, de la radio, du journal, Oroya, sa variante Hebdo, Oroya Hebdo, et ensuite dans tout un tas de productions culturelles, à la fois la chanson, à la fois le théâtre, donc ça je vais y revenir tout à l'heure. Donc c'est à l'origine un terme étatique qui est ensuite diffusé dans toutes les productions populaires sur lesquelles j'ai pu travailler. Moi je m'intéressais aux productions textuelles, je suis littéraire à l'origine, et donc je recherchais les textes de la Révolution socialiste dont on disait qu'ils étaient perdus. En réalité, ils n'étaient pas perdus, ils sont dans plein d'archives, des archives institutionnelles un petit peu, mais surtout, majoritairement, des archives privées. Donc dans les archives privées, on retrouve aussi des traces de ces complots mis en scène, mis en récit, dans des cahiers, dans des scripts, dans des scénarios. Et là, la rhétorique d'État est réinterprétée dans des myriades de scénarios divers. Je te laisse, Yoshka, revenir et puis je pourrais représenter en détail ultérieurement ces corpus.
Oui, bonjour à tout le monde. Et merci aussi pour l'accueil. Je dois dire que je viens de Düsseldorf, donc c'est la ville natale de Heinrich Heine. C'est particulièrement intéressant pour moi d'intervenir ici. En fait, pour moi, le complot, c'était pas du tout en Guinée ou en Afrique que j'ai croisé où mon intérêt a commencé. Mais j'étais aux États-Unis en 2008-2009 et j'étais entouré par des gens qui prononçaient cette idée du complot du inside job par rapport au 9 septembre. 11 septembre, voilà. Et en fait, cet intérêt sur le complotisme, je l'ai amené en Guinée et je me suis demandé, parce qu'un prof et un proche ami à moi me disaient qu'en Guinée, en 2008-2009, le complot consisterait par rapport au départ de Dadis Camara, qui était président militaire qui a eu une balle dans la tête. Il a survécu, mais il a eu une balle dans la tête. Et l'idée serait que derrière tout cela seraient les intérêts américains et français. Et je me disais que ce serait important de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et donc, en fait, moi, mon intérêt a commencé par l'idée de découvrir s'il y a un vrai complot, chose qui a prouvé impossible, parce que tout le monde disait une autre chose. Mais à travers cette recherche, ce qui m'a intéressé, c'est comment est-ce qu'un champ politique est structuré par les croyances. Donc, en gros, au lieu de dire, moi, en tant que sociologue, c'est une grande question. Qu'est-ce qui explique les différents champs politiques ? Donc, très souvent, dans les études politiques classiques en Afrique, on parle, par exemple, de l'ethnie et de la communauté. Tandis que j'ai trouvé l'idée que les croyances sont beaucoup plus fines pour interpréter aussi les shifts, le dynamisme entre différents camps politiques. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis intéressé aux théories du complot, aussi parce que c'était trop pénible de comprendre est-ce qu'il y avait un complot ou pas.
Pardon, vas-y.
Non, juste pour rebondir, donc il y a dans le régime de Sékou Touré, donc de 1958 à 1984, il y a des séries de complots. Donc le complot des enseignants, puis le complot des femmes, des marchandes, puis le complot des officiers félons, des politiciens véreux. Mais il y a, donc ça, toute une certaine historiographie française a tendance à dire que ce sont des fabrications de la part d'un dirigeant devenu complètement paranoïaque. Et en même temps, il y a toute une partie également de l'historiographie, notamment afrocentriste, mais pas seulement, qui vise à montrer les complots qui, eux, ont été des complots réellement fabriqués par les services secrets français, notamment le premier d'entre eux, en réalité en amont du complot des enseignants, qui s'appelle l'opération Persil, et qui est une opération qui est maintenant bien connue par ceux qui travaillent sur les barbouzes, par Jean-Pierre Bas notamment, qui a consisté à faire déverser de la fausse monnaie pour faire dévaluer le franc guinéen. Et notamment également en 1970, ce qu'on a appelé le débarquement guinéo-portugais, à savoir le Portugal attaque réellement Conakry. Et donc une des questions que je sens aussi avec toi, Yoshka, c'est quels sont les vrais complots, quels sont les faux complots, et cette question un peu impossible d'une part, à savoir qu'est-ce que le réel en sciences sociales, une vraie question aussi, et en même temps prendre au sérieux les manières dont les interprétations de ces faits ont des réactions, elles, également absolument réel, sans rejeter de prime abord ce qui se cache en réalité derrière, et qui est le deuxième point qui m'intéresse, c'est l'ingérence française et les persistances du néocolonialisme dans le contemporain. Et si le terme de complot est si important aujourd'hui, c'est qu'en réalité il y a une très longue durée d'une ingérence française et d'une diplomatie française et franco-africaine qui n'a jamais oser se regarder. Donc cette historiographie française qui a beau jeu de balayer d'un revers de main ces multiples complots qui ont été dénoncés par la presse guinéenne, en fait passe à côté d'un énorme sentiment politique qui se fonde sur des complots qui, eux, pour certains, ont été réels.
Tu as parfaitement fait la transition que je voulais amener entre la coexistence en Afrique subsaharienne de ces complots réels et de ces complots imaginés. Et pour avancer un petit peu plus, justement, je vais me tourner vers toi, Yoshka. Et comment est-ce que toi, tu as abordé ou comment tu abordes spécifiquement cette articulation entre complots réels et complots imaginés, complots inventés, complots fictifs, si tant est que la distinction soit facile à établir?
Oui, bon, en fait, dans le livre sur lequel nous travaillons, d'ailleurs aussi avec Elara, qui a contribué à un chapitre, Politique de l'inconnu, l'idée c'est de croiser le regard entre art et science. Donc déjà, il y a cette tension entre différentes modalités de théoriser le complot et de regarder le monde. Mais aussi, j'ai toujours, et je crois qu'on va en revenir, j'ai toujours soutenu l'idée de l'incertitude. Donc, entre le vrai et l'imaginaire, il y a toujours une incertitude qui reste. On ne peut pas, en tant que sujet dans le monde, savoir véritablement à quel point les concepts qu'on a du monde autour de nous, qu'est-ce qui est en nous et qu'est-ce qui est objectivement en dehors de nous. Par exemple, j'ai écrit une biographie d'une, qu'on pourrait dire, complotiste. Et elle, par contre, c'est quelqu'un, une des rares complotistes qui dirait « oui, je suis complotiste, bien sûr ». En faisant cette biographie, je m'interroge par rapport à mes propres incertitudes. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire l'histoire d'une autre personne ? Qu'est-ce qu'on construit soi-même et qu'est-ce qui est véritablement là? Qu'est-ce qui se passe dans l'interaction, surtout entre une femme guinéenne et un auteur allemand? Donc l'idée pour moi, c'est surtout de ne pas tomber dans cette posture très souvent prise par les scientifiques de construire un phénomène et de se mettre au-dessus en disant que c'est faux. Parce que l'incertitude, en quelque sorte, elle est universelle. Normalement, c'est à travers cette posture d'incertitude qu'on devrait commencer à donner un sens. Cet aspect un peu arrogant très souvent dans la recherche sur les théories du complot.
C'est très bien, ça m'inspire une double question, mais je vais d'abord, parce que j'aimerais bien que tu interviennes aussi, Sylvain, sur ce point. Mais d'abord, peut-être pour encore pointer un élément commun entre vos travaux. Alors, on reviendra après, hein, peut-être sur la question de la littérature, mais il y a d'autres questions, plein d'autres questions après. Mais justement, et ça fait écho à ce que tu disais, Lara, et ça fait écho aussi à ce que tu viens de suggérer, Yoshka. Il me semble que tous deux, dans vos travaux, vous refusez de diaboliser les imaginaires du complot. Alors, imaginaire au sens le plus large du terme, hein, qu'ils s'incarnent dans des fictions au sens strict, ou dans des discours sociaux informés par des représentations collectives, des imaginaires sociaux. En tout cas, il me semble que vous refusez tous deux de considérer les imaginaires du complot comme néfastes en tant que tels. Alors, en quoi est-ce que cela vous semble important? Et voilà, est-ce que peut-être, Lara, tu pourrais réagir là-dessus, puis ensuite, Jessica?
Oui, merci. Alors, le complot n'est pas intervenu comme un objet en soi dans mon enquête. En revanche, cette posture dont tu parlais de refuser d'être en surplomb, il y a toute une tradition intellectuelle qui est de déconstructionnisme dont on est tous assez héritiers, déconstruire l'ethnie, et ça on est tous d'accord. Post-Rwanda, disons, enfin en tout cas sur les études africaines, il y a eu une lame de fond sur la déconstruction des communautés. C'est intéressant et c'est fondamental politiquement pour plein de raisons. En même temps, ça a conduit et ça a reconduit une posture de chercheur en sciences sociales qui est celui qui lit les constructions des autres, comme si lui n'en était pas. Et donc j'ai refusé cette posture dans l'ouvrage sur Conakry, tout simplement parce que moi j'ai travaillé, le sous-titre s'appelle « Récits et contre-récits ». J'ai travaillé avec des mémoires familiales qui sont incompatibles entre elles. À partir du moment où je sors de l'archive nationale, les archives nationales de Guinée, la bibliothèque nationale de Guinée, et qu'on commence à enquêter avec les familles, on travaille avec des familles qui ont été pro-sécoutourées, des familles qui ont été anti-sécoutourées, et des familles qui, parfois, ont fait les deux, à l'échelle de trajectoires individuelles, de personnes qui ont écrit de la poésie socialiste, qui sont passées par le camp Boireau, qui sont revenues, et qui, parfois, tiennent toujours à dire qu'ils tiennent aux idéaux du sécoutouré de 1958. Et donc, arriver avec un discours où je serais en posture de défaire leurs illusions communautaires me semblait absolument incompatible, parce que ce que je voulais, c'était montrer et faire cheminer le lecteur à travers des mémoires familiales qui sont incompatibles entre elles et parfois avec des trajectoires qui, elles-mêmes, passaient par des spectres de position. Et donc les chapitres sont construits de telle manière à déjà laisser très largement la parole aux archives, avec des très très larges extraits, et également à essayer de faire en sorte que le lecteur chemine avec chacun de ces positions. Et mon idée dans l'ouvrage, c'était que ma voix soit la moins importante possible, même si le montage en soi est absolument un point de vue, mais de vous faire entendre à vous, lecteurs, toutes ces prises de position, en partant du principe que tous ces acteurs sociaux ont été éminemment intelligents, y compris avec des personnes dont les descendants sont frise le négationnisme sur les morts politiques. Mais essayer de comprendre pourquoi leur type de négationnisme est un discours politique également sur le contemporain. Parce que je ne me considère pas du tout comme plus sachante ou plus intelligente que les acteurs sociaux avec lesquels je travaille ou les acteurs sociaux sur lesquels les aïeux, disons, la génération d'au-dessus. Donc voilà, c'est plutôt une méthode d'enquête. Ensuite, l'objet en tant que tel de complot est revenu à plein d'aspects, mais il me semble que cette articulation un peu en kaléidoscope, c'est-à-dire que mettre le lecteur en position de passer par des points de vue qui sont contradictoires entre eux, permet aussi de représenter une violence politique qui se déploie et qui se diffracte. Déjà, la violence politique de la France en Guinée, c'est une évidence, et aussi les violences politiques croisées qui ont fait le temps des années 60 et 70, et je ne suis pas sûre qu'on soit dans un temps moins violent qu'il n'a été dans les années 70. Donc ce n'est pas en soi un objet qui est particulier. Je pense qu'on baigne au contraire dans des environnements sociaux qui sont très similaires. En revanche, ça nécessite des modes d'écriture et des modes d'enquête qui sont particuliers.
Moi, je crois que, pour revenir à ta question, c'est aussi une grande différence si on travaille sur les théories du complot en Afrique, qui sont très souvent des théories du complot qui concernent l'impérialisme et le néocolonialisme, ou si on travaille sur les théories du complot en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, qui sont très souvent des théories de l'extrême droite. Donc si, par exemple, je serais confronté à une théorie du complot comme le grand remplacement, j'aurais du mal à ne pas dire que oui, c'est extrêmement néfaste. Et c'est intéressant, dès qu'on se penche sur ce concept, c'est justement là un peu la violence que ce concept fait, parce que c'est complètement décontextualisant. C'est-à-dire l'idée même du concept, quand ça a été vraiment établi dans le discours politique par Hofstadter en 64, c'était vraiment de dire que les marches de la droite et les marches de la gauche ont également tort, et c'est le milieu libéral qui a raison, parce que nous sommes nuancés et plus raisonnables que les marges. Et donc, c'est un peu le...
Est-ce que tu peux peut-être juste revenir un tout petit peu sur ce texte de Hofstadter, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde dans la salle connaisse. Juste.
Donc, the Paranoid Style in American Politics, c'est un essai qui est apparu in Harper's Magazine en 1964. Et même s'il y avait d'autres auteurs, notamment Karl Popper, qui avait écrit sur les théories du complot avant, c'est vraiment ce texte-là qui rend ce concept important. Donc c'est à partir de là-bas que une sorte, on peut dire pathologisation de la théorie du complot. Même si Hofstadter lui-même, qui est un historien intellectuel à Columbia à l'époque, même si lui, il dirait, c'est pas son but de pathologiser les théories du complot. Mais fondamentalement, c'est exactement ce que le texte fait, en disant que les marges, que ce soit the Red Scare, donc toute la peur autour du communisme au début de la guerre froide, mais aussi les théories du complot de la gauche, tout ça, c'est des extrémistes, et c'est pour ça que c'est des paranoïaques. Après, on sait que Hofstadter a été financé par le CIA pour tenir ce genre de propos. Ce qui ne veut pas dire que le terme a été développé par le CIA, mais c'est avéré qu'il y avait un projet politique derrière, qui était pour le libéralisme, les croyances en les institutions. Et très souvent, aujourd'hui, la panique morale autour des théories du complot, le message est fondamentalement, il faut croire aux institutions, il faut croire aux experts, aux autorités épistémiques qui nous disent ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je crois que très souvent pour moi, il est beaucoup plus intéressant de voir pourquoi ce terme est tellement en vogue actuellement, surtout dans le Nord global, plutôt que est-ce qu'il y a plus de théories du complot aujourd'hui qu'avant, ce qui est au moins doutable.
Merci beaucoup pour ce rappel, ça nous a évité de le faire comme ça avec Sylvain. Oui, alors il me semble que là, dans la conversation qu'on vient d'avoir, il y a eu un glissement, mais qui est très intéressant, de la notion de complot à celle de théorie du complot ou de discours complotiste, donc d'un motif en fait à quelque chose qui serait de l'ordre d'un discours, d'un énoncé convoquant ce motif. Alors, on reviendra peut-être un petit peu après sur cette question des connotations négatives de l'idée de complot. Mais avant ça, parce que j'aurais bien aimé aussi entendre Sylvain et revenir un petit peu sur cela, parce que finalement, ce que tu viens de faire, Yoshka, en réinscrivant le terme de complot dans une étude des théories du complot, c'est de montrer que finalement, l'incertitude t'intéresse quasiment autant que le motif en tant que tel. Enfin, en tout cas, que c'est vraiment le travail sur l'incertitude qui t'a permis d'aller vers cela. Alors, est-ce que peut-être, parce que là, c'est un point commun, je pense, entre Yoshka et Sylvain, et ça permettra aussi à Sylvain de s'exprimer. Il me semble que tous deux, en fait, vous rejoignez en réinscrivant l'étude de ces figures, de ces figurations. Alors, j'emploie le terme de motif parce que je suis littéraire, mais on pourrait parler de figure du complot. Il me semble que tous les deux, vous rejoignez en réinscrivant ces figures dans une réflexion plus générale sur l'incertitude. Alors, est-ce que peut-être, donc Yoshka, honneur à l'invité, tu pourrais répondre là-dessus. Puis ensuite, Sylvain, j'aimerais bien aussi entendre, que tu parles un petit peu aussi de tes travaux à toi.
Moi, je serais très intéressé d'entendre Sylvain là-dessus, donc je peux passer la parole.
Bon, tu rebondiras après, alors. Vas-y, Sylvain.
Merci beaucoup. C'est moi qui ai plutôt envie de vous écouter. On va tous passer la parole les uns comme ça aux autres. Plus sérieusement, effectivement, ces contextes d'incertitude sont des contextes extrêmement importants. Donc moi, je suis en psychologie sociale et moi, je m'intéresse au processus qu'on va appeler cognitif ou socio-cognitif, ce qui se passe dans la tête des gens. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens croient, pourquoi les gens adhèrent à des théories, pourquoi les gens les diffusent. Et déjà, c'est une distinction importante, c'est-à-dire que je ne présuppose pas que ces théories sont forcément crues. Elles peuvent être diffusées ou transmises sans adhésion spécifique, ce qui peut paraître parfois un peu surprenant. Et dans ces contextes, pour revenir à l'échange qu'on a eu aussi tout à l'heure, que vous avez eu tout à l'heure sur complot réel, complot imaginé, complot inventé, moi, en psychologie sociale, je m'intéresse, je ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je me situe comme vous, hein, en dehors de ce caractère, un peu de cette forme morale qui viserait à donner, voilà, une espèce de tampon. Ça, c'est un vrai complot, donc c'est vrai, donc on peut l'étudier sérieusement. Ça, c'est un faux complot, c'est une fiction, c'est une invention. Vous n'êtes pas crédible, vous êtes irrationnel. Moi, je m'intéresse tout simplement, j'aurais envie de le dire, aux histoires que les gens se racontent. Et à partir de là, que ce soit vrai ou faux, ça m'importe peu. Je veux chercher à comprendre pourquoi, dans ces contextes d'incertitude, dans ces contextes que moi je vais qualifier de crise, qu'elle soit politique, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociale, peu importe, les individus ont besoin de se raccrocher à des croyances, à des histoires. Alors ces croyances, évidemment, on en connaît plein, des classiques, hein, la religion, mais ça, moi, je l'ai très vite écarté en tant que psychologue social. Mais nous avons aussi les idéologies, les grandes idéologies politiques. Et moi, je me suis intéressé beaucoup plus à des croyances de la vie de tous les jours, ouais, à ces croyances de la vie quotidienne. D'abord à la superstition, et puis aux rumeurs, et puis donc aux théories du complot. À ce qui, pendant très longtemps aussi, je pense qu'on peut le souligner, hein, a été assez vite exclu des recherches, en tout cas en sciences humaines, en sciences sociales, en se disant que voilà, c'était pas ces fameuses archives nationales, la vérité dans lesquelles on peut, la vérité entre guillemets, dans lesquelles on pourrait piocher et analyser. Non, c'était vraiment ce qui concernait monsieur et madame tout le monde. Et donc voilà, c'est ma clé d'entrée, sachant que moi, mes sphères d'études sont plutôt celles de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, voire de l'Amérique du Sud, mais pas du tout de l'Afrique. Donc je suis très heureux d'avoir déjà lu certains de vos travaux et de pouvoir discuter sur ça. Alors justement, je te relance, alors non pas exactement cette question, mais je voudrais aller un petit peu plus loin sur est-ce que pour toi, il y aurait une spécificité dans l'Afrique subsaharienne de ces études, de cette prise en compte de l'incertitude. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, en fait un lieu particulier ou est-ce que c'est une rencontre autre qui t'a amené à travailler à cet endroit-là? Voilà, j'essaie de comprendre mieux ce rapport à l'incertitude.
Oui, je crois qu'il y a énormément de différence sur le plan. En fait, là, pour moi, les théories du complot, si on parle des contextes africains, sont autre chose dans le sens où, en Europe ou dans le Nord global, il y a vraiment cette idée que les théories du complot sont le contraire de l'opinion générale officielle, le mainstream. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de mainstream? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas un médium, une institution, un État, une religion? Qu'est-ce qui se passe dans des sociétés avec multiples langues, multiples religions, multiples communautés, multiples histoires qui sont entrelacées, où tout est en négociation? C'est-à-dire, là déjà, il y a un aspect ou une assumption, comme on dit, une idée à l'intérieur de l'idée du concept de la théorie du complot qui n'est pas donnée. Donc l'incertitude consiste aussi en tant que incertitude sous quelle institution est-ce que les gens pensent, agissent, qu'est-ce qui les motive. Il y a dans le bon, ça c'est vraiment un peu sociologique, académique, mais c'est vraiment cette idée que le constructivisme social en sociologie consiste en disant il y a des institutions qui déterminent en quelque sorte ce sont des dispositifs qui sont suivis par les individus. Tandis que ce qu'on peut, ou ce que moi au moins j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup plus de négociations autour dans le jour à jour. L'incertitude, c'est pas nécessairement quelque chose une absence ou une manque. Ça ne ressemble pas toujours à la crise, mais c'est aussi un potentiel. Chacun peut jouer n'importe quelle situation, un peu comme ça ou un peu comme ça, par rapport à la rapidité dans laquelle on peut lire l'autre en face de soi. Donc il y a un jeu, il y a un aspect beaucoup plus ludique qui est aussi dont parlent certains auteurs sur les théories du complot dans les sociétés du Nord global. Mais pas autant, à mon avis, que ça devrait. Il y a beaucoup plus un jeu avec la réalité ou avec des concepts de la réalité et une sorte de contestation des autres qui définissent la réalité que une sorte d'idée d'un secte établi ou d'une institution elle-même. C'est beaucoup plus ouvert, à mon avis. Je crois que c'est ça ce qu'on peut apprendre des contextes africains. Au-delà de ça, peut-être juste brièvement, il y a deux aspects qui surgissent beaucoup dans la littérature sur les théories du complot. En Afrique, c'est la sorcellerie et c'est le néocolonialisme dont on parlait. Les deux rendent la chose beaucoup plus complexe que ce dont on parle ici.
Oui, je voudrais peut-être rebondir sur ça, d'ailleurs, sur la différence entre complot de droite, comme on peut l'entendre ici, c'est-à-dire les querelles sur les vaccins, sur l'homme n'a pas marché sur la Lune, ou sur les Twin Towers. Ça n'ont rien à voir avec énormément d'histoires du quotidien qu'on pouvait entendre, notamment sur les années 70, sur des questions du prix du riz, en fait, des questions du quotidien. Ou alors, un autre complot, c'est celui des élites contre le peuple, grand motif socialiste de répression politique. Et donc, ces questions-là, elles sont liées différemment dans un rapport à l'État, ou dans l'État d'un ordre global, c'est une défiance vis-à-vis de l'institution étatique. Dans ces complots sur Ouest africain, où on a travaillé avec Yoshka, c'est aussi un rapport à la définition de ce qu'est la post-colonie en termes d'extractivisme, de prix, de manipulation du prix, parce que le franc guinéen n'a jamais eu d'émergence parce que De Gaulle ne l'a jamais voulu, de manipulation sur les ressources primaires. Aujourd'hui, en Guinée, le projet Simandougou est en train d'être relancé. On parle du plus grand gisement de fer au monde et du manipulation géopolitique. Vous trouvez énormément, par exemple, de complots autour de la mort de Lumumba qui est en train d'être... Et en même temps, ce qui est en germe là, c'est des complots qui racontent au quotidien ce que fait le néocolonialisme dans des États qui sont des États faillis, qui sont des États faillis, de par des manipulations d'une géopolitique globale. Et ce qui se passe actuellement dans la géopolitique contemporaine de guerre des ressources, en réalité, on le retrouve dans la longue durée, depuis les indépendances politiques, qui ont été des indépendances négociées de manière politique, mais qui n'ont jamais donné lieu à des indépendances économiques réelles. Et donc, ressurgissent des récits qui mettent en récit les colères populaires liées au quotidien. Et le quotidien, c'est quoi? C'est le prix du riz. C'est le prix de l'huile. Il y a un complot classique qu'on retrouve dans le quotidien. C'est il y a du faux riz en plastique, mais qui a été vendu par les Chinois et donc le riz. Mais en fait, c'est les mêmes complots qu'on retrouve au tout début des années 60, non pas sur le plastique, mais sur le prix du riz ou sur les marchandes qui sont payées par l'étranger. Enfin, donc c'est ce qui est en germe là, à travers le quotidien et à travers le récit, c'est un constat géopolitique. Et donc, bien sûr, il y a une différence entre ces complots de droite en France et le cœur de l'Empire qui est en train d'avoir des effets concrets, en termes narratifs aussi, à l'extérieur.
Alors justement, allons encore un petit peu plus loin, parce que je vois, en t'entendant, un point commun avec Chloé dans vos travaux, dans une manière de concevoir le complot, enfin l'énergie émancipatrice que vous associez toutes les deux au motif du complot. En fait, vous montrez toutes les deux, d'une certaine manière, que l'idée d'un complot peut aussi s'articuler à un imaginaire révolutionnaire. Et j'aurais aimé justement là vous entendre échanger sur ce point-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant dans les études, dans les analyses sur le complot. Chloé, tu peux peut-être commencer.
Oui, et puis je rebondis aussi peut-être, oui, je vais vous faire une réponse un peu désordonnée, mais ce n'est pas grave, parce que en entendant, pour rebondir après sur cette question, après ce que vient de dire Elara, parce qu'en fait, en entendant Yoshka, je pensais à ce texte de Jean-Pierre Dozon, La vérité est ailleurs, donc qui est un anthropologue, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, qui explique, et c'est discutable, qu'on peut considérer que les théories du complot telles qu'elles se développent dans le Nord, alors il cite typiquement certaines théories du complot qui on peut nourrir, des fictions comme The X-Files ou toutes ces théories consistant à voir la CIA un petit peu partout. Bon, bah, donc, il donne plein d'exemples quand même qui sont beaucoup liés aux États-Unis. Et par ailleurs, les théories du complot qui circulent en Afrique subsaharienne, pour lui, renvoient à une autre manière de dédoubler la réalité. Et donc pour lui, le point commun, alors c'est très large, mais pour lui, l'un des points communs entre les théories du complot du Nord et du Sud, avec tous les guillemets que vous voulez, c'est cette idée d'un dédoublement de la réalité. Et alors, Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yoshka, mais je pense qu'aussi, il le fait aussi d'Ozon afin d'encourager aussi à l'étude de ces théories du complot en Afrique, parce qu'il y a quand même aussi un discours qui circule beaucoup au sein de ce qu'on appelle les conspiracy studies, c'est de dire que, bah oui, cliché, hein, mais on lutte aussi contre ça, de dire, ah bah oui, bah en fait, oh là là, en Afrique, il n'y a pas de théorie du complot, parce qu'en fait, il y a la sorcellerie, donc ils n'ont pas besoin de théorie du complot. Et là, la réponse que vient de faire Elara, elle montre clairement que ça ne suffit pas, c'est un peu court, et que certes, il y a des points communs très généraux, mais que replacer tout ça dans une interrogation politique, géopolitique, est absolument essentiel, et permet en retour, ou je ne sais pas si c'est en retour, mais a notamment pour conséquence qu'on se rende compte que, bah oui, un complot, une conspiration, moi j'emploie les deux comme synonymes, bah ça peut aussi être quelque chose d'émancipateur. Et ça, c'est ça qui est assez marquant. On le voit très bien quand on remonte au XIXe siècle, mais en Europe, il n'y a pas besoin d'aller spécialement très loin, mais on reste en France. On se rend compte qu'au tout début du XIXe siècle, dans la littérature, mais pas seulement, le motif du complot est très souvent relié à une volonté de renverser la monarchie. Et que le motif même du complot et que le personnage du conspirateur acquiert possède une énergie émancipatrice qu'on retrouvera au cours du XXe siècle dans certaines figures d'anarchistes, par exemple. Voilà. Et là, actuellement, il y a quand même majoritairement, en tout cas au sein du Nord global, il y a quand même majoritairement l'association de l'idée du complot, de la conspiration, un imaginaire néfaste. Or, la réponse d'Elara montre que c'est un petit peu plus compliqué dès lors qu'on se décentre. Et alors voilà, Elara, voilà, pardon pour cette réponse un petit peu désordonnée, mais vous m'inspirez beaucoup là tous les deux. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de ça, de cette idée que le complot, la conspiration, enfin la conjuration, dans quelle mesure est-ce que tu l'associes à une forme d'insurrection ? Enfin, est-ce que ça te parle, cette articulation entre complot et révolution ?
Oui, merci beaucoup. C'est une très belle question. Déjà, un point peut-être pour répondre sur la sorcellerie. Donc, c'est une parenthèse. Il y a un grand sociologue, d'ailleurs, Joseph Tonda, qui fait ce lien entre sorcellerie et complot. Il a notamment des chapitres très beaux sur ces phares de voitures qui transformeraient les gens en cochons. Enfin, et cet imaginaire d'une post-colonie globale par les écrans, par la société des éblouissements, il appelle ça. Et donc c'est un analyse des médias du contemporain que je trouve vraiment fabuleux. Enfin, difficile, mais fabuleux. Et il vient de l'anthropologie de la sorcellerie, c'est son point de départ, mais il en fait tout autre chose. Donc ça, c'est sur le Joseph Tonda qui est impressionnant, et c'est sur la parenthèse sorcellerie. Sur l'imaginaire révolutionnaire, c'est difficile de te répondre, c'est-à-dire que oui, c'est un jeu d'emboîtement d'échelle. Est-ce que c'est une énergie de l'opprimé, en quelque sorte, le complot ? Est-ce que c'est la force des faibles, c'est-à-dire de dire sur l'échiquier international, Sékou Touré n'a pas pu faire advenir d'indépendance économique, et le complot est l'énergie de la révolte postcoloniale. Oui, en partie. En même temps, il faut tout de suite rajouter, il y a eu des morts réelles, c'est-à-dire que Sékou Touré a produit environ 50 000 morts politiques. Ça n'est pas rien à l'échelle de la région, de la sous-région. La France produit ses propres morts politiques. Hein. J'en fais pas du tout une exception africaine. Hein. De Gaulle a fait énormément de morts. On compte pas la guerre d'Algérie, mais c'est pas du tout une mise en compétition. Simplement, ces complots ne peuvent pas être réduits à une énergie révolutionnaire type romantique, comme on aimerait pouvoir la lire aussi. Pas du tout. Ils ont fonctionné comme outil de répression politique dans le quotidien. Simplement, moi, en tant que chercheuse, je les balaye pas d'un revers de main, a priori. Ça veut pas dire que je suis naïve sur la manière dont ils ont été instrumentalisés. Et donc, il me semble que c'est ce jeu-là et cette ligne de crête qu'il faut pouvoir tenir sur, à la fois, quelle est l'énergie politique et quels discours politiques sont fantasmés, sont projetés par ces discours, tout en étant tout à fait conscients de la répression politique en interne qu'ils ont produit.
Pardon, Josca, je reste un petit peu sur ça, juste pour continuer, parce que, du coup, est-ce que les combats indépendantistes africains ont pu contribuer à ce que l'idée du complot soit peut-être moins stigmatisée de l'autre côté de la Méditerranée ? Est-ce qu'on pourrait faire ce type d'hypothèse ? Ou est-ce que c'est vraiment complètement décalé et ça montre que je n'y connais rien sur le domaine ?
Pas du tout. Alors, il me semble que pour les années sur lesquelles je travaille, et je laisse Yoshka sur le contemporain, il y a quand même des lignes récurrentes qui s'inscrivent dans un mouvement socialiste global, donc d'une révolution socialiste, qui puise énormément dans la rhétorique que l'URSS a pu développer, des traîtres à la patrie qui sont appelés la cinquième colonne. Et on trouve d'ailleurs dans la presse des pleines pages avec marqué dénoncez-les tous, un peu comme les Pokémon, mais en version société civile. Et donc, il y a quand même, et on voit les en pleine page, avec l'ardoise, hein, les condamnés à mort, qui racontent leur auto-accusation. Oui, j'ai trahi le peuple, oui, j'ai désiré les villas, oui, j'ai désiré l'Occident, ses femmes, sa musique, etc. Donc, j'ai été complotiste. Donc, il y a une face d'un mouvement socialiste, soviétique, global, qui reprend cette rhétorique-là du complot interne, qui reprend aussi le complot externe, qui est le complot capitaliste d'une extraction qui, pour le coup, est pas fausse. Enfin, et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Guinée n'est pas du tout isolée. Elle s'inscrit dans un monde socialiste anti-capitaliste, à l'époque où il y avait encore deux blocs. Et donc, elle bricole, en réalité, une rhétorique complotiste qui se forge simultanément en Chine, en URSS, à Cuba, dans ces années-là. Elle le fait de manière originale, avec une force de proposition fondée sur sa masse critique de politique d'État public mise en tout sur la culture, et on y reviendra peut-être après sur les mises en fiction des récits. Donc elle le fait avec une force littéraire assez impressionnante et avec une force de répression politique également. Je veux dire, les camps politiques qui étaient ce à quoi s'exposaient les anti-révolutionnaires ont été particulièrement importants. Voilà. Donc oui et non, c'est-à-dire c'est une mise, c'est un bricolage original d'une rhétorique globale d'un bloc soviétique, voilà, à l'échelle globale, quoi.
Et alors, c'est peut-être pour passer la parole à Yoshka, est-ce que tu vois une évolution historique dans tout ça ? Parce que donc tu travailles sur des contextes un peu plus, enfin, qui sont plus proches de nous. Voilà, comment tu te positionnes par rapport à ce que vient de dire Ella ?
Je voulais juste revenir là-dessus parce que je trouve que c'est assez important. Je crois que ce que moi j'ai constaté, le complot, c'est une vérité. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, c'est pas seulement ne pas stigmatiser, c'est évident. Les faits sont là, même si on n'a pas les preuves, pour faire un peu paradoxal. Mais c'est-à-dire la situation géopolitique du continent africain donne toute raison à qu'il y ait des manigances. Peut-être on ne les voit pas tous je crois que sur ce plan-là, ce qui est intéressant, c'est en même temps le terme théorie du complot ou imaginaire du complot, ou même complot, n'est pas vraiment très courant. C'est-à-dire, on a eu, par exemple, on a travaillé avec un collègue en Côte d'Ivoire, Oumarou Boukhari. Il s'est intéressé aux théories du complot autour de Covid-19. Donc, il a demandé, est-ce que vous croyez en telle et telle théorie du complot ? Et les gens ont demandé, mais théorie du complot, c'est quoi ? Donc, il a dû expliquer, et son explication est assez intéressante. Il a demandé aux gens, si le Covid-19 est politique, et là les gens ont compris. Ah oui, bien sûr c'est politique. Donc en fait, politique et complot, c'est synonyme. Pour vous dire que c'est pas une question de stigmatisation, c'est la façon essentielle de donner du sens à cette chose qu'on appelle politique. Donc aussi pour dire à quel point c'est universel et important, mais aussi pas discuter sous ce label. En fait, si on prend ça comme un miroir sur la discussion qu'on a en Occident, ça veut dire que peut-être on a mal compris ce que c'est la politique. C'est-à-dire peut-être nous, on a été en tant que politologue ou sociologue, pendant très longtemps, on a co-construit un imaginaire d'un système politique qui travaille d'une façon rationnelle, avec systems theory, Donc toute la grande théorie des systèmes qui a été extrêmement en vogue également dans les années 60, quand Hofstadter a développé toute sa théorie sur les théories du complot, ça va ensemble. Donc je crois que maintenant, c'est un peu ça, où il y a un réveil intellectuel, mais qui met en doute énormément de choses qu'on a pris pour la réalité.
Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant, même si ça ne répondait pas à ma question, mais super. Non, mais merci beaucoup. Et donc, juste sur le... Bon, je vais suivre la trame, mais j'aurais d'autres choses à te demander. Et donc, sur la question de l'évolution historique, donc est-ce que tu... Comment dire ? Est-ce que tu as pu, par rapport à ce qu'a dit Lara, sur l'intrication, récit contre récit, sur cette idée que... peut-être ce qu'Lara disait au sujet des éléments très quotidiens, est-ce que tu as pu remarquer une évolution ? Est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de... Enfin, non, je te laisse répondre parce que je ne veux pas faire d'hypothèse, mais voilà, est-ce qu'il y a une évolution historique à ton sens par rapport à ce que vient de pointer Lara, ou est-ce que tu te retrouves beaucoup dans ce qu'Lara a dit, ou les deux ?
Oui, bon, bien sûr, je me retrouve dedans. Je crois que c'est bon. On a observé, je crois, les mêmes terrains. Et en fait, dans les petits complots, dans les petites rumeurs sur la question de RIS et aussi sur le pharmaceutique, parce qu'il y a aussi les faux pharmaceutiques, les faux médicaments. Donc tout ça, c'est très logique qu'il y ait ce genre de rumeurs. Je crois que la grande théorie du complot, qui est maintenant la grande question sur la question décoloniale, c'est autour, est-ce que la France est derrière le terrorisme ou pas ? Donc, et comment interpréter ce genre de narratif ? Comment se positionner par rapport à cela ? Parce que là, on est vraiment dans une classique théorie du complot. Et elle est extrêmement répandue. Moi, j'ai été au Burkina pendant un an, 2023-2024. C'est même pas une théorie du complot, c'est common sense. Et on n'en parle pas vraiment, parce que c'est pas vraiment discutable. Et donc, c'est là où moi, j'ai eu mes problèmes. Non, parce que je serais contre une décolonisation de 2.0, mais parce que je crois que ça met en cause des... En fait, c'est une question de valeur, finalement. Et mélanger ce... Moi, je reste quand même assez classique sur cette idée que, même si la distinction entre valeur et fait est toujours difficile à faire, en tant que scientifique, on est censé de la faire. Et donc là, j'ai eu mes problèmes. Mais ça, c'est sûrement une des grandes questions de dans les théories du complot que j'ai. Ça s'est radicalisé, je dirais.
Ouais, on peut rebondir. On a une discussion avec une collègue historienne qui est très attachée à cette recherche de qu'est-ce qui est vrai dans certains de ces complots sur la période Sékou Touré, tandis que Yoshka et moi sommes très attentifs à la manière dont les récits structurent les imaginaires. Néanmoins, on est tous les deux d'accord, je pense, sur ne pas renoncer à cette enquête, néanmoins, c'est-à-dire ne pas vivre dans des guerres de narration seulement. Néanmoins, ce qui est intéressant, il me semble, en prenant juste un exemple sur ces guerres de narration, en 1970, lors de cette attaque de Conakry par le Portugal et la Guinée, c'est appelé complot guinéo-portugais parce que le Portugal veut assassiner Amilcar Cabral, parce que le mouvement de libération de Guinée-Bissau est réfugié à Conakry. Donc c'est une vraie attaque impérialiste. Enfin, je veux dire, pour le coup, voilà. Néanmoins, c'est également appuyé par des Guinéens de l'extérieur qui militent pour être appelés non pas mercenaires de l'Occident, mais opposants politiques, et qui attaquent non pas pour faire le jeu du Portugal, mais pour, ils luttent pour être reconnus en tant qu'adversaires politiques sur le terrain des idées politiques. Et un troisième point de vue, c'est celui de Stokely Carmichael, une Black Panther émigrée à Conakry, qui vit l'attaque la nuit et qui, toute sa vie, va défendre le régime de Sékou Touré. Et donc, moi, j'ai travaillé à la fois avec ceux qui se disent des opposants et non pas des mercenaires, à la fois avec la rhétorique de Sékou Touré dénonçant l'agression portugaise, et à la fois avec le fils de Carmichael qui maintient le constat politique. Et il me semble que ce que dit Yoshka sur quelle est la politique et quelle est la narration de nos politiques, ça interroge aussi, non pas seulement y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu complot, c'est-à-dire ça, on est d'accord avec notre collègue, il faut travailler sur l'établissement de ces faits, bien sûr, mais également, à partir de ces trois points de vue, comment s'interprète la politique dans le quotidien et comment s'interprète un débarquement, un soir, tant de munitions et tant de répression politique dans la suite. Parce que 1971, l'année d'après, c'est la pire purge du régime en répression à cette agression guinéo-portugaise. Voilà.
Tu évoquais ta collègue historienne, vous avez évoqué de l'anthropologie tout à l'heure, etc. Vous portez une attention particulière tous les deux à une approche, à une interrogation interdisciplinaire, hein, un peu à l'image de cette rencontre d'ailleurs. Et je me demandais à quel point, enfin, comment vous jugez cette dimension interdisciplinaire comme étant fondamentale dans vos travaux. À quel point vous lui donnez une importance et comment vous l'utilisez?
Moi, je serai très court aussi parce qu'on a envie d'entendre les questions du public, mais je dirais que c'est les disciplines, c'est un peu nos certitudes. Donc c'est dans le cadre de nos disciplines, on sait ce qu'on va faire. Et en fait, travailler de façon interdisciplinaire, c'est toujours c'est un peu l'entre-deux ou entre plusieurs. Où en fait nos certitudes aussi sont déstabilisées. Donc je crois que c'est ça ce que je trouve intéressant.
Alors pour le point de vue français, l'interdiscipline est un peu le fondement de cette non-discipline qui est l'africanisme à la française, qui s'est centrée depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Ça désigne pas grand-chose de clair, si ce n'est l'attachement à un terrain, à une méthode d'enquête qui effectivement n'est pas tout à fait la même que lorsque l'on enquête dans le Nord. La question qui est posée par cette question de l'africanisme, qui encore une fois n'est pas une vraie discipline, elle se pose de manière tout à fait différente sur la littérature. Et donc moi, venant de la littérature, il y a toute une tradition universitaire, et d'ailleurs c'est comme ça uniquement qu'on l'enseigne à l'université, ce qu'on appelle la littérature africaine, c'est la littérature telle qu'elle est éditée en France, dans des maisons d'édition françaises, y compris Présence africaine. Présence africaine est une maison de droit français qui paye ses impôts en France. Enfin, donc qui fabrique le canon littéraire légitimé par des institutions françaises à partir d'un public majoritairement français. Or, il y a toute une tradition à la base d'anthropologues, de temps en temps quelques littéraires aussi, qui s'attachent à relier ce canon qu'on a déterritorialisé avec énormément de productions culturelles africaines produites en Afrique par des Africains, dont des pièces de théâtre, de la chanson, des récits, des cahiers, de l'édition africaine aussi, qui dialogue en fait avec ces grands auteurs. Et donc l'idée de la manière dont j'ai travaillé, c'est remettre en perspective Kamara Lai, Tierno Monenembo, William Sassine, ces grands, avec des environnements de journalistes, d'auteurs de théâtre, de pièces collectives qu'on n'a jamais étudiées à la fac, parce que d'abord on disait qu'elles avaient disparu, alors en fait elles n'ont pas disparu, ou aussi qui n'ont jamais été étudiées parce qu'elles ne correspondaient pas à un canon occidental, c'est-à-dire un auteur, un titre, une date, une maison d'édition. Ce sont des pièces socialistes qui ont été jouées collectivement, revendiquées de manière collective, non signées, etc. Donc, voilà.
Merci, Elara. Ouais, c'est marrant que tu dises ça, parce que moi, l'une des raisons qui m'ont fait travailler sur le Nigeria, c'était justement qu'il y avait quand même davantage d'œuvres publiées, enfin, dans une certaine Afrique de l'Ouest anglophone, pas partout, il y avait quand même davantage d'œuvres publiées en Afrique et s'adressant à des publics africains. Et là, je me demande s'il n'y a pas quand même une spécificité francophoniste.
Oui, alors ça, c'est Pascal Casanova qui l'a montré dans La République mondiale des lettres. Il y a une très forte extraversion, disons, du marché africain, littéraire, j'entends, dans le cas francophone. C'est-à-dire qu'il y a encore un néocolonialisme extrêmement fort, beaucoup plus fort que dans le monde anglophone, par exemple, où l'Inde, par exemple, a été porteur depuis bien longtemps de maisons d'édition. Pour le cas français, aussi, du fait de succès de ces maisons des années 50, notamment présence africaine, il y a toujours eu cette extraversion-là d'un champ littéraire encore majoritairement porté par Paris. C'est pas, ça s'est totalement inversé si l'on regarde le champ lusophone. Aujourd'hui, l'actualité de la lusophonie, elle se joue à Rio. Je suis désolée, elle se joue pas au Portugal. Donc, il y a comme ça des grands domaines impériaux et une spécificité francophone manifeste.
Ouais, merci pour cette précision.
Après, alors, ça change, les choses changent. Par exemple, le dernier Goncourt de 2021 de Moukarsar, c'est une coédition. Philippe Rey, Jim San. Et donc, les choses bougent énormément. Il y a un front de libération des auteurs africains qui est porté par Armand Gauze. Il y a les grands auteurs du moment. Ils ont tous leur maison d'édition. Léonora Meyano, elle a une maison d'édition. Genre, dans le contemporain, les choses sont en train de bouger. Mais pendant très longtemps, le format francophone a été porté par une extraversion massive.
Oui, donc il y a quand même cet ancrage-là, puis l'ancrage aussi de ce que tu disais, cette tradition africaniste, en tout cas pour les études littéraires, même si elles ne sont pas que littéraires. Mais alors justement, pour prolonger ce qu'on vient de dire, donc outre cette interdisciplinarité là, que vous avez bien exposée, tu peux répondre plus longtemps, Yoshka, ça nous intéresse, hein, on a le temps. Justement, là, on l'a très bien vu dans la réponse d'Elara, un autre élément qui vous rassemble, c'est l'attention portée aux modalités même, hein, en fait, de votre recherche. Et donc, bon, on le voit, hein, on est tous blancs à cette table, hein, voilà, donc c'est aussi une posture, enfin, juste des corps qui sont à situer. Et j'aimerais bien justement qu'on creuse un petit peu ça. En quoi est-ce que peut-être cette dimension réflexive, autocritique, est-ce qu'elles sont dans quelle mesure est-ce que c'est essentiel quand on est un chercheur européen, une chercheuse européenne qui travaille sur l'Afrique subsaharienne? Comment vous vous débrouillez de ça? Alors c'est une grande question, hein, je sais bien. Mais voilà, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela?
Bon, je crois que ça c'est pas seulement nécessaire par rapport aux théories du complot, mais c'est sûrement un aspect particulier où la réflexivité est absolument nécessaire. On ne peut pas bien travailler là-dessus sans le faire. Sur l'Afrique également, moi, mon superviseur de thèse et mon mentor, Eliseo Makamo, il disait toujours, étudier l'Afrique, c'est d'abord étudier la production du savoir. L'idée derrière, c'est inspiré par Moudimbe et autres penseurs africains, c'est de dire que le concept même de l'Afrique est tellement imprégné de pensée coloniale que c'est impossible de parler des phénomènes sans se poser la question d'où viennent les concepts, d'où viennent les idées, mais aussi comment est-ce que les idées se sont transformées en pratiques. Moi, avant, par exemple, j'ai travaillé sur la question de la jeunesse. Eh bien, même... Ah oui. Et même le concept de la jeunesse qu'on pourrait trouver assez objectif, c'est peut-être une tranche d'âge, mais est imprégné d'une histoire coloniale. Parce que très souvent, en fait, les colons n'ont pas exactement su comment dominer les sociétés, parce que l'idée de la classe n'était pas la même, l'idée de la communauté ethnique n'était pas la même. Donc, il y a un très beau livre de Okobok sur le Kenya qui montre qu'en fait, la jeunesse et surtout la jeunesse masculine était au centre d'un projet colonial. Et ça, on peut faire une déclination de n'importe quel concept. Donc, cette idée d'être réflexif et comment on approche ou on s'approche de l'Afrique est extrêmement importante, surtout pour des chercheurs blancs comme moi. Mais en fait aussi en général, dans le sens où l'Afrique est tellement construite de l'extérieur Eliseo aimait dire que soit c'est une dérivation complète de ce qu'on trouve normal, soit c'est la même chose que la subalternité. Il n'y a aucune autre façon d'exister pour l'Afrique que dans ces deux cadres. Et ça, c'est un risque qui se pose pour tout le monde, mais qui nous enseigne d'être très vigilants, surtout pour nous qui viennent de l'extérieur, d'attribuer un sens qui n'a rien à voir avec la représentation des personnes avec qui on travaille.
Bon, c'est une grande question et de toute façon, c'est une question qu'on n'a jamais fini de traiter. C'est-à-dire que le soupçon postcolonial, il disparaît pas, même avec nos amis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de post-racial dans une société tellement inégalitaire où moi, je ne peux bouger et la plupart des mes interlocuteurs n'ont pas le même passeport et n'ont pas les mêmes facilités de circulation. Donc, le post-colonial ne se règle pas avec un entretien, si bon soit-il, avec nos interlocuteurs, même lorsqu'ils deviennent des amis et qu'ils viennent dormir à la maison quand ils viennent. On me soupçonne toujours d'être l'incarnation de Macron lorsque je fais des enquêtes, et c'est normal. Je veux dire, ça fait partie de la situation d'interlocution d'en parler. En revanche, je fantasme pas du tout la situation d'un chercheur guinéen qui aurait plus de facilité que moi à travailler sur ces complots-là. C'est-à-dire qu'il y a un collègue malien qui, il y a longtemps, Mamadou Diawara, a écrit un article fondateur qui s'appelle « De l'inconvénient d'être du cru », qui a été repris récemment par une historienne de la santé, Safiatou Diallo, qui a écrit un très bel article qui s'appelle « Les murs ont des oreilles », et qui est d'ailleurs un titre qui est complotiste. Et elle raconte comment on la soupçonne toujours par une assignation supposée ethnique, d'avoir tel ou tel présupposé politique. Et donc, elle m'envie, par exemple, en rigolant, le fait, ma capacité à avoir été interrogée, différents types de couches sociales et différents types de rapports à ces couturiers, qu'elle n'aurait pas été capable, et n'a pas été capable, d'ailleurs on lui a fermé la porte, du fait de son assignation pseudo-peul qui lui a été reprochée. Donc ça, je trouve ça très fin, la manière dont elle l'a dit. Ensuite, il y a une part qui est n'importe quelle source ou n'importe quelle position d'enquête doit être autoréflexive, Afrique ou pas. La spécificité de l'Afrique, c'est la massification du discours colonial produit depuis des décennies et reconduit dans une assignation, une asymétrie, ce qu'on appelle l'injustice épistémique, ou comment nos productions du Nord circulent plus que les productions du Sud global, et comment les politiques d'open access, par exemple, sont en train de renforcer l'injustice épistémique. Donc ça, ce sont des réflexions qui appellent du dialogue avec chacune des familles. Bien sûr, quand on travaille avec des familles, on ne peut pas forcer les gens à sortir les mâles. Donc si les mâles sortent, ça veut dire qu'il y a confiance. Et donc cette confiance, elle est dans le temps long, et c'est tant mieux, finalement. Les mâles peuvent se refermer à n'importe quel moment. Et en même temps, cet aiguillon-là de « est-ce que je ne vais pas dire des conneries ?»« Est-ce que moi, en tant que blanc, je suis en train de... » En même temps, j'ai envie de le tenir. Et il m'apporte autre chose. Et un dernier point, il y a des manières de travailler aussi avec. C'est-à-dire de coproduire du savoir, de coécrire. J'ai coécrit avec la directrice du journal Oroya, par exemple. J'ai travaillé avec des archives de famille qu'on a co-éditées. Et puis, Yoshka fait de la recherche-création... Il y a des manières de travailler aussi dans des types de collaborations qui court-circuitent l'autorat blanc sur un sujet africain. Par exemple, je fais des conférences performées avec Armand Gauze sur des histoires collectives qu'on a co-imaginées. Ça ne veut pas dire que ça règle toute la question, mais ça veut dire que l'autorat scientifique, c'est-à-dire la base de notre travail, ce pourquoi on est évalué, ce qu'on nous a appris à l'école, en fait, ça s'interroge aussi et ça raconte d'autres histoires.